RCF. Julien Quéquineau, bonjour. C'est un parcours, un destin incroyable que le vôtre. Vous êtes né en Vendée en 1973, mais la fascination pour la montagne, et notamment pour un sport en train de naître dans les années 90, le base jump, a fait de vous un champion de ce sport de l'extrême. Malgré un accident qui aurait dû vous laisser paralysé, vous vous reconstruisez, et notamment en partant au Groenland, votre pays d'adoption. En effet, depuis 2009, vous êtes le premier étranger à avoir obtenu un permis de chasse professionnel au Groenland. Vous avez été initié par les Inuits, vous êtes devenu l'un d'entre eux, chasseur, comme eux, des phoques ou des rennes sauvages. Mais vous êtes aussi accompagnateur d'expéditions touristiques ou scientifiques, tant vous connaissez bien ce milieu polaire. Alors Julien Quéquineau, vous êtes de passage à Paris à l'occasion de la parution du livre que vous consacre Hubert Prolongeau, Le dernier chasseur, aux éditions Albin Michel. Bien, je suis très heureux de vous accueillir. Ça fait des années que vous n'êtes pas revenu en France. Qu'est-ce que vous ressentez dans les rues de Paris, vous qui êtes habitué à vivre dans un village inuit de moins de 60 habitants et habitué aux grands espaces du Groenland?
Ça fait un peu du bien, à vrai dire, de voir des gens, de se mélanger un peu à la foule, et tout ça change un peu.
Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas venu en France?
10 ans. La dernière fois, c'était en 2013.
Et vous dites quoi quand vous voyez cette agitation là autour de vous, alors que vous, vous viviez jusqu'à très très récemment dans un village de moins de 60 habitants?
Au début, avec mon fils, on était un peu, ça fait un peu du bien. Et puis hier soir, on a été visiter la Tour Eiffel, un truc de touriste. Il a jamais vu la Tour Eiffel, donc on a évité la Tour Eiffel. Et au retour dans le métro, on était bon quand même. Les gens qui vivent ici, en groenlandais, on dit « nashin », ça veut dire « les pauvres ». C'est un peu stressant quand même.
Agglutinés dans le métro tous ensemble.
Ouais, avec le bruit des portes qui se ferment, etc. Enfin, c'est difficile de trouver le calme en fait. Il y a toujours du bruit tout le temps.
J'avais reçu à ce micro, il y a une dizaine d'années, un autre amoureux du Groenland qui s'appelle Nicolas Dubreuil. Oui. Et il était venu avec des Inuits qui venait à Paris pour la première fois. Et il m'a raconté que ce qui les impressionnait le plus, c'était pas les bâtiments, c'était même pas la Tour Eiffel, c'était les pigeons. Et qu'il photographiait les pigeons. Et il se demandait pourquoi les Parisiens chassaient pas les pigeons.
ça dit quoi
des Inuits, cette histoire?
Non, moi, mes enfants, c'est les arbres, en fait. Puisqu'on habite dans un endroit où il n'y a pas d'arbres. Donc c'est les arbres. Mon fils, c'est les arbres en fait. On a été au jardin du Luxembourg l'autre jour, et il était impressionné par les arbres, il voulait toucher les arbres. Ben, je pense autant impressionné que vous si vous allez au Groenland et vous voyez un iceberg pour la première fois de votre vie, ben, c'est pareil pour lui.
Alors Julien Quéquineau, dans ce livre qu'Hubert Prolongeau vous a consacré, le dernier chasseur, vous raconterez bien sûr votre vie de chasseur au Groenland, et on va en parler longuement, on va prendre notre temps. Mais par contre, ce qui est intéressant de découvrir, c'est que vous n'étiez pas du tout prédestiné à être chasseur au Groenland. C'était même pas un rêve d'enfant qui lisait Paul-Émile Victor ou Les Grands Explorateurs. C'était pas ça, du tout.
Pas du tout.
Vos rêves d'enfant, c'était quoi? Quand vous êtes né en Vendée en 1973, ouais. C'était quoi vos rêves d'enfant?
J'ai jamais vraiment eu de rêve, j'ai jamais vraiment planifié le futur en fait. Pour ça, on me pose souvent la question, c'est quoi tes rêves ou c'était quoi tes rêves? Et ça peut paraître bizarre, mais en fait, j'en ai jamais eu. J'aime bien prendre la vie comme elle vient et en fait, je suis le chemin qu'elle me met devant les pieds en fait.
Et ça, c'est pas, excusez-moi, c'est pas inuit déjà cette attitude de vivre l'instant présent, le présent?
Si, complètement. Ouais.
On m'a dit qu'ils n'aiment pas trop parler du passé ou du futur. Ce qui compte, c'est là, maintenant.
C'est pas qu'ils n'aiment pas parler du passé, du futur. C'est un peu faux parce que si vous allez à Nuuk ou dans des villes plus importantes comme Sisimiut, où les gens vivent comme vous vivez à Paris ou dans n'importe quelle ville de province, en fait, c'est surtout les gens qui vivent avec la nature dans les petits villages plus au nord ou plus au sud, puis même à l'est d'ailleurs, où on est habitué en fait à vivre avec la nature. Donc on prévoit jamais parce que si vous parler à quelqu'un et vous lui dites, bah tiens, la semaine prochaine, on va aller à tel endroit. Il va vous regarder, vous répondre, si là, là, gars. Ça veut dire, en gros, bah on verra, ça dépend de la nature. Jean Mallory avait traduit ça par « Seuls les glaces et le temps sont maîtres ». C'est plus poétique, mais en fait, ça veut dire, en gros, la météo, c'est le boss, le temps, c'est le temps qui commande, et puis on verra en fonction de ça, donc on peut pas prévoir, en fait.
C'est intéressant, ça, parce que ça rend humble, quelque part. C'est pas vous qui maîtrisez tout. Vous pouvez pas maîtriser le temps, la nature. Et nous, en Occident, on a une mentalité qui est quand même très, très différente. On aime planifier, même plus que ça. On passe notre vie à planifier.
Oui, oui.
Parce qu'on s'est coupé de la nature, vous pensez?
Non, c'est que la vie des gens, elle est planifiée du matin au soir, en fait, puisqu'il faut aller au travail, il faut tout est planifié, il faut aller à l'école, il faut aller récupérer les enfants, on a rendez-vous avec des amis au restaurant, tout est planifié, puis on est obligé d'avoir une horaire, parce que si tout le monde vit, moi tiens, vous allez arriver au restaurant, vous êtes tout seul, vos amis arrivent 2 heures après, donc c'est normal que ce soit planifié, mais c'est vrai que quand les... Par exemple, quand j'emmène des gens sur mon traîneau, on fait des petites expéditions et c'est souvent le truc qui revient. Bon, ben, on arrive à quelle heure? Ben, j'en sais rien. Mais quand même, on arrive dans 1 heure, dans 2 heures? Ben, j'en sais rien parce que ça va dépendre de plein de choses. S'il y a une tempête qui se lève, comment va être la route, s'il a neigé, s'il a pas neigé, comment est la glace. Donc, j'en sais rien, on verra.
Alors, Julien Quéquineau, on revient un peu sur votre parcours parce que vous avez eu une vie avant celle de chasseur au Groenland, une vie qui a été marquée par une forme d'aventure puisque assez jeune, hein, vers 22 ans, vous avez découvert un sport qui commençait à apparaître, qu'on appelle le base jump. Ouais. Alors, pouvez-vous nous expliquer déjà ce que c'est, parce que je suis sûr que beaucoup de gens nous écoutent, savent pas ce que c'est que le base jump.
Oh, aujourd'hui, je pense que tout le monde sait ce que c'est, puisqu'on voit tous les gens sur YouTube qui s'élancent avec des wingsuits, là, depuis des falaises.
Donc... Ah, mais je pense qu'il y en a qui savent pas encore. Mais, alors, qu'est-ce que c'est le
base jump? En fait, c'est du saut en parachute, depuis une falaise, un pont, un immeuble. Le BES, en fait, c'est l'acronyme de Building, Antenna, Span Bridge et Earth. Donc, ce qui veut dire bâtiment, pont, antenne et...
Donc, c'est sauter avec un parachute sur le dos, mais pas sauter d'un avion, sauter d'un immeuble, sauter d'une falaise.
De n'importe quoi, mais pas d'un avion.
Et ça, comment vous l'avez découvert, ce base jump?
En fait, j'étais à l'armée. À l'époque, j'étais militaire engagé au 21e RIMA, à Fréjus. Et on avait fait un stage commando montagne à Briançon, chez les chasseurs alpins. Et il y avait des vertical magazines, en fait. Et j'ai découvert la montagne. En fait, j'ai découvert même... Plus que le base jump, j'ai découvert la montagne et, pendant ce stage chez les chasseurs alpins. Donc, découvert la montagne et puis découvert le base jump. Il y avait un article sur André-Pierre Rem et Jérôme Ruby, qui étaient des snowboarders extrêmes de Chamonix, très connus à l'époque.
Et, là, on est dans les années 90.
Ah, oui, on est au début des années 90. Des années 90. Ouais. Et justement, il y avait un article sur eux dans Vertical Magazine, qui est un magazine spécialisé de la montagne, en fait, si ça existe toujours, je ne sais pas, mais... Et je me suis dit, ouais, ça doit être...
Grisant, quoi.
Ça doit être bien, ça doit être... Mais je m'étais pas posé plus de questions que ça. Je m'étais mis d'abord, quand je suis revenu de ce stage, après je me suis mis à l'alpinisme et à l'escalade, parce que ça m'avait vraiment plu, en fait, l'ambiance montagne que je connaissais pas du tout.
Visage, Thierry Lyonnais.
Alors, Julien Quéquineau, vous êtes devenu un passionné de base jump, vous avez même consacré votre vie là-dedans. Mais vous dites que c'est quand même un mode de vie assez particulier. Hein. On vit dans sa petite caravane, dans son petit mobil-home, dans la montagne, et on pense qu'à une seule chose, c'est sauter.
Oui, bah, de toute façon, tous ces sports, un peu ce qu'aujourd'hui vous appelez les actions sports ou les sports extrêmes, c'est des sports où on vit un peu dans une bulle, puisqu'on fait que ça, on est obligé de se concentrer sur ce sport, puisque c'est quand même assez critique. Si vous faites une erreur, ça peut vous coûter cher. Donc on vit tous dans une bulle ensemble, on communique ensemble, s'échanger des informations sur les spots à sauter, sur les équipements, le matériel, les nouvelles techniques, etc.
Et comment on en vit? Comment on en fait son métier?
À l'époque, on n'en faisait pas son métier. À l'époque, on n'en faisait pas son métier. Et moi, j'ai eu la chance... grâce à un ami, enfin un photographe qui est devenu un ami, Daniel Ferrer, avec qui on avait commencé à faire quelques publications, quelques parutions dans les magazines comme Paris Match, etc. Donc j'avais pu trouver des sponsors, mais aujourd'hui on en vit probablement des gens arrivant à en vivre avec des sponsors aussi gros que Red Bull, etc. Mais à l'époque...
Et qui font des vidéos, qui passent sur YouTube, on voit ça aujourd'hui. Ouais.
À l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien et on n'en vivait pas du tout. C'était assez compliqué, ouais.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport? C'est l'adrénaline?
Non,
c'est,
non. J'ai jamais eu de. J'ai pas le vertige. J'ai pas cette sensation d'altitude. Je peux me mettre au bord d'une falaise sans être attaché. En fait, j'ai pas cette sensation de. J'ai pas cette peur, en fait.
Et j'ai pas cette décharge d'adrénaline. Vous n'aviez pas peur quand vous étiez au bord du précipice ou de la falaise ou d'un immeuble et que vous deviez sauter. Vous ne ressentiez pas la peur.
Ouais.
C'est un avantage, ça, ou c'est un inconvénient?
Non, c'est un inconvénient, je pense. C'est vraiment un inconvénient. À l'époque, je pensais que c'était un avantage. Et aujourd'hui, je pense que c'était un inconvénient. Et c'est pareil pour cette décharge d'adrénaline que j'ai jamais vraiment eu ce truc d'adrénaline. Alors, bien sûr, évidemment, quand votre corps, il subit une accélération comme ça dans le vide, il y a toujours un petit truc qui se passe. Mais j'ai jamais eu cette grosse décharge d'adrénaline où on dit toujours les gens sont drogués à l'adrénaline. J'ai jamais eu ce truc-là.
C'était pas ça votre moteur?
Non, le moteur, c'était plus de me retrouver avec mes amis, d'être en montagne. C'était vraiment la cerise sur le gâteau, en fait, d'aller marcher en montagne, de passer la journée en montagne, d'arriver au bord de la falaise, puis de redescendre comme ça. Mmh. Et il y a un truc particulier dans le base jump, c'est que quand vous sautez, au moment où vous sautez, en fait, vous êtes à quoi ça, le temps se décuple. Ça dure vraiment pas longtemps, mais le temps se décuple. Donc au moment où vous quittez le sol, les premières secondes, en fait, c'est comme si le temps s'était arrêté.
C'est de la chute libre à ce moment-là.
Oui, c'est de la chute libre, mais c'est comme si le temps s'était arrêté et vous avez vraiment le temps de regarder tout ce qui est autour de vous. Et c'est vraiment le.
C'est et en même temps, il faut être super conscient parce que vous devez vite ouvrir votre parachute quand même. Donc, trouver le bon timing entre la chute libre et l'ouverture du parachute.
Oui. Effectivement, il y a des techniques, il y a des façons de plier, des façons de ranger son extracteur. L'extracteur, c'est le petit parachute qu'on met pour ouvrir le gros parachute, etc. Donc, c'est pas une précipitation, mais effectivement, oui.
Et ce qui est fou, c'est que vous sautiez non seulement des falaises, mais aussi des gratte-ciel. Ouais. Et vous avez sauté des cathédrales aussi.
Oui.
Quelle cathédrale?
Alors, j'ai sauté Chartres. Ouais. Chartres, je l'ai sauté illégalement. Ça n'avait pas plu aux gens sur place. Et après, on avait sauté la cathédrale d'Auxerre pour Paris Match à l'époque. Et on avait eu l'autorisation de la mairie, puisque la cathédrale d'Auxerre n'appartient pas au diocèse, mais elle appartient à la mairie d'Auxerre.
Comme toutes les églises construites avant 1905. Ouais, donc, il fallait demander l'autorisation à la mairie.
Alors,
sur la flèche? Vous étiez où? Sur une des tours?
Non, au-dessus des cloches. On appelle ça le clocher, en France.
Ouais,
j'ai un peu perdu mon français. Et non, ça s'était très bien passé. On avait très, très bien accueilli, je me souviens plus de son nom, l'abbé. Je me souviens plus de son nom, mais on avait été très bien accueillis. Et puis, la mairie, ils avaient, j'avais trouvé ça super, donc...
Un beau souvenir.
Ouais.
Ça, c'est un beau souvenir, ce saut. Mais par contre, il y a eu un moment où ça a été nettement moins fun, on va dire. C'est, vous partez en Suisse, vous devez sauter près d'une cascade, et là, c'est l'accident. Vous vous souvenez précisément de ce qui s'est passé ce jour-là?
Ah oui, je me souviens de tout, comme si j'étais arrivé hier, en fait. Mais c'est de ma faute, l'accident, il n'est pas dû au hasard, etc. C'est ma faute, c'est moi qui à l'époque, justement, à la fin, je faisais ça comme si j'allais acheter mon pain, en fait.
C'est pour ça que vous dites dans le livre d'Hubert Prolongeau, j'étais un connard. Hein, vous avez cette expression, vous dites,
ouais, parce
j'étais
que
un connard.
On devient un peu présentieux, en fait. Quand on est jeune, on a un peu ce feu, et puis on a un ego qui est un peu surdimensionné. C'est un peu, maintenant que je suis sorti de tout ça, ça fait 20 ans que je saute plus, quand même. Il y a quand même cette mentalité dans tous ces sports, etc., où on prend un peu les autres gens pour un peu monsieur et madame tout le monde, on le prend un peu de haut, et puis nous, on est un peu supérieur parce qu'on fait autre chose, et puis on fait des trucs, on brave la mort, etc. Enfin, même si.
Et on se sent supérieur aux autres.
Ouais, je pense, inconsciemment, je pense qu'on se sent un peu dans une autre caste. Et moi, à l'époque, je sautais vraiment tous les jours. Je faisais que ça, je vivais dans mon C25 et puis je me levais le matin, je mangeais mes nouilles chinoises et puis j'allais sauter, je faisais ça tous les jours. Et au bout d'un moment, on se sent un peu invincible en fait. L'accident, ça n'arrive qu'aux autres. Et je me souviens, j'étais avec mon ami Bertrand Cloutier, qui est un Québécois, qui était avec moi à ce moment-là. Et on a vu un autre best jumper, on était en bas en fait, on marchait pour aller justement se diriger vers la montagne. Et on a vu un sauteur américain. Je ne sais plus ce qui lui est arrivé. Enfin bref, il s'est emmêlé les pieds. Il est tombé de la mauvaise façon, ce qui fait qu'on l'a vu chuter. On s'est dit, lui, il va avoir un accident. Il a réussi à ouvrir son parachute. Puis tout s'est bien passé. Puis ma première réaction, au lieu de me poser la question comment allait cette personne, il a eu de la chance. Bah, miraculeusement, tout s'est bien passé. Au lieu d'être content pour ça, je me souviens, ma réaction, c'était, ah, quel con. à cause de gens comme ça, les sites vont être fermés, on ne va plus avoir les autorisations pour sauter, etc. Et puis le lendemain, c'était moi le connard, parce que c'était moi qui finissais à l'hôpital. Donc, vous êtes
un peu cette prétention. Tombé dans le coma. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes réveillé?
Alors j'ai fait 5 jours de coma, si je me souviens bien. Et quand je me suis réveillé, en fait, c'est un peu rigolo parce que quand je me suis réveillé, j'avais toujours l'impression d'être j'avais l'impression d'être dans le seau au moment où je me disais bah tiens je vais impacter et en fait je me suis réveillé et j'avais une personne au-dessus de moi qui me parlait en allemand parce que j'étais en Suisse allemande et tout était blanc autour de moi là. Bon, je me suis dit moi je suis pas du tout j'ai pas de religion, je crois pas du tout en
Dieu,
paradis ou
la
etc.
Vie après, la vie, pas même, d'expérience de mort imminente là.
Non, voilà, mais là, je me disais quand même, c'est ça le paradis. Enfin, puis là, tout était très lent. Au bout d'un moment, j'ai commencé à entendre le moniteur qui faisait bip. Et puis là, j'ai commencé à comprendre que j'étais à l'hôpital, mais c'était assez drôle.
Aucune image, aucun souvenir au moment de la chute et au moment où vous êtes écrasé.
Alors si tout va très très lentement en fait, tout se passe en une fraction de seconde, mais dans mon esprit puis dans l'esprit de beaucoup de gens, tout était très 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 lent. En fait, je me souviens de tout, de tous les détails, de même après 20 ans, je me souviens de tous les détails. Ouais.
Julien Coquinon, on peut pas tout raconter parce que j'ai hâte aussi qu'on parle de votre vie de chasseur au Groenland. Mais vous avez eu quand même une détermination parce qu'on vous avait dit que vous pourriez plus marcher ou marcher au mieux avec des béquilles. Qu'est-ce qui vous a donné la force, la volonté de remarcher, de vous battre, puis d'être celui qui est devenu aujourd'hui un chasseur au Groenland?
Ouais, la volonté de marcher et puis de me battre, c'était à l'époque, j'étais comme ça, j'étais déterminé, je voyais pas pourquoi. J'avais déjà eu plusieurs accidents, hein. C'est pas aussi grave que celui-là, mais j'avais déjà eu plusieurs accidents. La volonté de marcher puis de ressauter, c'était, je voyais pas pourquoi. C'était ma vie, c'était ça. C'était,
mais on vous a dit que vous ne remarcheriez peut-être pas. Au début, on vous a même dit que vous seriez dans un fauteuil.
Les gens sont quand même assez pessimistes au départ. J'avais eu aussi l'expérience d'amis qui avaient eu des accidents, qui devaient aussi finir en fauteuil roulant, puis au final, qui remarchent et puis qui étaient repartis.
Donc il faut pas écouter les docteurs qui vous annonce le pire, quoi.
Bah non, faut toujours. Je pense qu'il y a une grosse partie de mental dans la convalescence, c'est ça en français,
la convalescence.
Il y a toujours une grosse partie de mental.
Vous parlez bien français. C'est pas que le langage inouï qui revient, bravo.
Donc voilà, et puis ensuite j'ai eu la chance en fait. Alors c'était très pessimiste. En Suisse, c'était pas trop pessimiste. En France, c'était très très pessimiste quand je suis arrivé à l'hôpital en France. Et ensuite, quand je suis arrivé au centre de rééducation, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui était un ancien spécialiste en fait des sportifs de haut niveau et la kiné qui m'avait été attribuée en fait Gwenaëlle Couvrant, que je remercie aujourd'hui si elle écoute ça d'ailleurs, qui était une ancienne gymnaste de haut niveau en fait. Quand je leur ai donné mes objectifs en fait, que mes objectifs c'est de retourner en montagne, de grimper, de ressauter, etc. Ils ont pas du tout été choqués par ça. Ils ont dit ok, ben on va démarrer un programme et on verra dans tant de temps où ça va aller.
Et alors, Julien Coquinon, ce qui semble incroyable, c'est que vous vouliez ressauter. Enfin, je dis ça semble incroyable, peut-être que pour des sportifs de haut niveau, c'est pas incroyable. Vous vouliez ressauter.
Oui, parce que à l'époque, de toute façon, l'accident, on sait qu'il va arriver un jour. Même si, au fond de soi, on se dit ça arrive qu'aux autres, on sait quand même qu'il est là. On a vu des amis avoir des accidents, puis des accidents assez graves en plus. Donc on sait que c'est là, et puis... Donc, ouais, à l'époque, je me posais pas vraiment de questions. C'était
Il fallait ressauter. Quand vous avez ressauté, parce que vous avez ressauté, vous êtes rendu compte que vous étiez plus au même niveau qu'avant et que vous n'atteindriez plus ce niveau-là. Il y a un passage dans le livre qui vous est consacré, là, Le Dernier Chasseur, qui est très touchant, où vous êtes au Canada, vous essayez de nouveau de vous mettre avec ses collègues qui sautent. Et puis, il y a un Québécois qui dit « Ça, c'est Julien ». Tu l'aurais connu avant, il était ouf. avant ? Trois petits points.
Ouais, ça c'est bien après. Ouais. C'est bien après
ça,
que j'étais.
Ça, j'aimerais que vous nous expliquiez là. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a été au top, enfin un très très bon niveau, on a l'accident, on veut recommencer, et là on se rend compte que finalement on n'y arrivera pas. Ben, on a été.
Oui, mais c'est pas vraiment ça en fait. C'est pas le fait qu'on n'arrivera pas. C'est plus socialement qui on est. Chaque personne a son entourage social et a son niveau social par rapport à son entourage et ses amis. Ben moi, forcément, puisque je faisais plus rien à l'époque, ben j'étais plus rien en fait. Donc au début, vous êtes un peu celui qui a eu l'accident, parce que les gens ont tendance à porter ça comme un prestige d'avoir eu un accident, alors qu'en fait c'est parce qu'on a fait une bêtise. Donc c'est pas du tout un prestige, mais les gens ont tendance à porter ça comme un prestige, puis au bout d'un moment, ça s'estompe puisque vous faites plus rien de nouveau. Donc, vous êtes là. Et puis en plus, à l'époque, je prenais pas mal de médications assez fortes pour la douleur, etc.
Des opiacés, en fait.
Ouais. Hein. Et puis, comme pas mal de gens, sans vouloir partir dans la misère, etc. Comme pas mal de gens, on a tendance à pas mal s'oublier en faisant la fête parce que ça fait penser à autre chose. Et puis, au lieu de voir les choses concrètement, puis d'affronter les choses concrètement, on est un peu dans une autre bulle qui est pas la bonne du tout. Donc, on devient un peu le fantôme de soi-même. Et ce qui fait que oui, ça m'avait marqué. En fait, c'est ce qui m'a fait un peu comprendre qu'il y avait des choses qui allaient pas. C'est quand Eric, c'est un très bon ami, et je suis toujours très bon ami avec lui, Eric Tremblay, quand il avait dit cette phrase, effectivement, lui avant, je me souviens, je m'étais arrêté comme ça.
Visage, l'expression de l'être.
Alors Julien Caquineau, parlons du Groenland. Comment ce pays, cette destination, alors je dis ce pays, ça appartient, on en reparlera peut-être un peu, ça appartient au Danemark, mais c'est un pays continent, c'est énorme le Groenland. Comment le Groenland est rentré dans votre vie ? Vous pouvez nous raconter cela ?
Alors, avant d'y habiter, en fait, le Groenland, j'y étais allé pendant 3 semaines. Pour une expédition, on avait eu l'idée avec Georges Renoux à l'époque, qui s'occupait des services de sport à Paris Match, d'aller sauter des icebergs. Donc j'y étais allé avec mon ami Daniel Ferrer, qui était photographe à l'époque. Donc on était parti à Ilulissat, où se trouvent les plus gros icebergs de tout l'hémisphère nord.
Et donc l'idée, c'était de
les escalader, technique cascade de glace, et de les sauter en base jump. Ça s'est pas passé comme c'était prévu.
C'est beaucoup plus compliqué que vous imaginez.
Beaucoup plus compliqué que je pensais. Déjà, j'avais pas le niveau pour escalader. J'étais pas un alpinisme comme Lionel Daudet ou Jeff Mercier. Même si j'avais un bon niveau à l'époque, c'était au-dessus de mon niveau.
Et qu'est-ce qui vous a plu au Groenland? Parce que, comme vous dites dans le livre, le Groenland, c'est une destination qui fait rêver. Trois petits points, soit fuir. Puis il y a des gens, ça fait pas rêver le Groenland, quoi. C'est plutôt le froid, la banquise, ça attire pas du tout. Vous, ça vous a fait rêver tout de suite ou ça a été un apprivoisement progressif?
Ça m'a pas fait rêver, puis ça me fait pas rêver en fait.
Vous y vivez depuis 15 ans, mais c'est.
Ben c'est pas du tout idyllique de vivre au Groenland.
C'est dur.
Il y a plein de gens, si vous leur dites demain on vous paye une maison en Indonésie à 30 degrés au bord de la plage, ils vont pas dire non.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'un de vos héros, c'est Paul-Émile Victor, que vous aimez beaucoup. Paul-Émile Victor a vécu une grande partie de sa vie au Groenland, enfin dans les pôles, mais il a fini sa vie à Bora Bora, sur une île.
Mais il a bien raison. Ah. J'espère que je vais faire pareil.
C'est intéressant ça. Finalement, c'est pas un choix lié à un émerveillement face au Groenland qui fait que vous êtes chasseur au Groenland.
Ce qui est intéressant au Groenland, et pas que dans les petits villages où on peut vivre de la chasse et de la pêche, même quand vous vivez dans une ville comme Nuuk, c'est la liberté, en fait. Je pense que c'est un des derniers pays où vous êtes libre, en tant qu'homme, complètement libre, de vos choix, en fait. Le free will, c'est ça, hein, d'être libre de ses choix. C'est vraiment ce qui est intéressant au Groenland. Si vous voulez, demain, vous poser et passer un mois à vous asseoir le matin et à regarder la banquise en prenant votre café sans aller travailler, il n'y a personne qui va vous juger. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Dans la société occidentale, demain, si vous décidez de prendre une année sabbatique ou de prendre un mois à décider à rien faire, quand vous voulez recommencer à travailler, on va dire mais c'est quoi cette période où vous avez rien fait, vous êtes feignant ou...
Mais vous, Julien Caquineau, quand vous êtes arrivé au Groenland, en 2008. Mmh. Hein. Vous avez pris un aller simple, vous arrivez en février 2008 au Groenland, mmh. en plein hiver, c'est la période la plus froide. Hein, vous arrivez avec un aller simple. Qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Qu'est-ce que vous vouliez vivre
Rien.
À ce moment-là?
Rien. J'étais parti pour revoir des amis que j'avais rencontrés durant cette première expédition. Là. Et voilà, j'avais vraiment aucune idée derrière la tête, mais vraiment aucune. Je voulais juste aller revoir des amis, me changer les idées. J'avais passé une très très mauvaise passe. J'avais juste envie de me changer les idées.
Et alors, qu'est-ce qui vous a fait devenir chasseur professionnel? C'est la rencontre avec Niels, celui qui sera votre père adoptif?
Oui, bien sûr, oui. Et puis ensuite, c'est surtout le... Parce que moi, je suis pas du tout chasseur. J'étais pas chasseur avant. Pour moi, les chasseurs, c'était des gens qui tiraient sur des pauvres oiseaux qu'on mettait dans la nature une semaine avant. Donc, j'avais pas une très bonne image, en fait, de la chasse. Mais ce qui me plaisait, en fait, là-bas, c'était ce rapprochement avec la nature, en fait, d'aller chercher de ce qu'on a besoin pour vivre.
Parce qu'on est chasseur pour vivre quand on est inuit.
Alors, oui et non aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un revenu, en fait, la chasse. Il y a quasiment plus personne, même si tous les Groenlandais vont à la chasse pour avoir un foc et le manger dans la famille. Les gens, aujourd'hui, ils ont tous un travail. Quand vous êtes chasseur-pêcheur, parce que les deux métiers vont de pair, en fait, on peut plus être complètement chasseur à 100% pour vivre. Vous chassez pour pouvoir revendre la viande et les peaux. Donc, c'est plus vraiment...
Si je vous entends bien, il y a vraiment une rupture, finalement, dans la tradition. Autrefois, donc on va dire quoi, jusqu'aux années 50, 60...
Oh non, bien après, il y a encore 10-20 ans, dans certains villages, en fait, les gens se nourrissaient principalement de ce qu'ils chassaient ou pêchaient.
Il y a encore 10-20 ans.
Ouais, ouais.
Dans des petits villages.
Là, depuis 10 ans, ça a énormément changé le Groenland. Depuis 10 ans, ça a vraiment, vraiment, vraiment changé.
Donc, traditionnellement, la vie d'un Inuit, c'est d'aller chasser pour nourrir sa famille et pour revendre ses peaux et revendre la viande.
Ouais.
Vous, quand vous êtes arrivé en 2008 et que vous êtes devenu chasseur professionnel avec votre carte en 2009, c'était encore ça?
Alors, pas à Ilulissat, parce que j'étais à Ilulissat, et à Ilulissat, donc c'est une ville qui vivait déjà avec le tourisme. C'est une ville où il y avait déjà une usine qui rachetait le poisson et qui exportait le poisson. Donc, les gens, sur cette, ce qu'on appelle une ville, il y a 4000 habitants, on appelle ça une ville au Groenland.
4000 en fait, habitants, c'est une ville, hein.
Ouais, là, il y a du travail, il y a des supermarchés, il y a du travail, donc les gens vivent sur les endroits comme Ilulissat, Sisimiut, Nuuk, Umanak, Upernavik, les gens vivent comme en France, depuis 20, 30, 40 ans, en fait. Mmh. C'est vraiment dans les petits villages plus reculés où il a fallu plus de temps, en fait, parce que justement, il n'y a pas de travail. Donc, comme il n'y a pas de travail sur place, les gens se nourrissaient principalement de la chasse et de la pêche. Ensuite, les communes et on appelle ça les communes, c'est les régions, en fait. Mmh. Les communes et le gouvernement ont commencé à mettre en place des pêcheries dans les petits villages, dans les endroits, dans des points stratégiques, ce qui fait que les gens ont pu développer le métier de la pêche, c'est-à-dire pêcher pour vivre, pour gagner de l'argent, et chasser pour vivre, pour gagner de l'argent. Donc forcément, s'il y a une usine, il y a aussi du travail pour leurs épouses ou les plus jeunes. Donc tout ça s'est développé tranquillement, en fait.
Alors vous, Julien Quéquineau, comment vous êtes devenu chasseur? Comment a démarré cette initiation à la chasse en territoire groenlandais, sur la banquise, en hiver, en été, vous allez nous raconter. Mais le point de départ, comment ça s'est fait? Ça a été cette rencontre avec Niels, c'est lui qui vous a emmené chasser, qui vous a fait découvrir ça?
Ben en fait, on travaillait tous les deux, parce que lui, à l'époque, on ne pouvait pas vivre de la chasse et de la pêche encore. Là. Les revenus étaient assez faibles, donc lui, pour arrondir ses fins de mois l'été, il travaillait pour une agence de tourisme. Et on était sur un camp tous les deux, à 2 heures de bateau, là, au nord d'Ilulissat. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à aller à la chasse avec lui. Il a commencé à m'apprendre les techniques, à poser des filets pour attraper les truites, etc.
Toujours comment... chasse et pêche.
Ouais, toujours chasse et pêche, ouais.
Et alors, j'aimerais qu'on parle très concrètement de cette chasse au phoque, parce que le phoque tient une grande place dans la culture des Inuits. En vous lisant, je me suis dit que c'était très difficile de chasser le phoque.
Ouais, au début, c'est difficile.
Vous pouvez nous raconter la première fois où vous êtes parti chasser le phoque et
s'est passé. Au début, on est avec quelqu'un, donc on a des directions. Tiens, faut aller par là. Le phoque, il va ressortir par là. Donc avec Neil, c'était plus ou moins facile. Mais quand on se retrouve tout seul pour la première fois, déjà, je vais où? Parce que eux, ils savent, en fait, en fonction du mois de l'année où on est, de la météo, du temps, des courants, de la glace, ils savent à peu près où vont être les phoques. À la fin, on le sait. Mais au début, on ne sait pas ça.
Il y a donc, des coins, comme il y a des coins pour les champignons, il y a des coins pour, voilà. Pour les phoques.
Et suivant telle espèce de phoque, tel moment de l'année, etc. Donc ça, faut le découvrir, parce que après, au début, les gens, ils sont là pour vous aider, mais au bout d'un moment, vous vivez sur place, et puis chacun a son boulot, surtout quand l'hiver arrive. Là, les gens commencent à se préparer pour la saison d'hiver, pour pouvoir avoir assez de nourriture pour les chiens, etc. Donc l'été, les gens ont beaucoup de temps à vous consacrer, l'hiver, beaucoup moins. Donc là, faut commencer à se débrouiller tout seul. Et puis forcément, quand on est un idiot de français tout seul qui veut jouer les Esquimaux,
c'est ça qui m'intrigue, Julien Caquino. Comment vous avez pu être admis dans ce milieu-là, vous le français qui n'avez jamais chassé? Vous arrivez là-bas, vous rencontrez Niels, il vous prend la bonne, il était heureux même, on le comprend bien, de vous transmettre son savoir, ce qu'il faisait pas avec son fils, il l'a fait avec vous. Mais ça doit pas être évident d'apprendre ça, d'arriver à repérer un phoque sur la banquise, on le voit pratiquement pas, vous dites, c'est pas évident.
Non, c'est très dur.
Très dur.
Ouais, c'est très dur.
Et vous vous êtes senti vite dans votre élément là-bas?
Non, pas du tout. Je me suis senti dans mon élément, dans cette ambiance paisible, en fait. Puis la beauté, en fait, des paysages, parce que c'est magnifique.
C'est vraiment beau, parce que là, on a du mal, quand on n'a pas mis les pieds au Groenland, ces grandes étendues blanches, on va se dire, il fait nuit une partie de l'année, et de l'hiver notamment, et puis c'est du blanc. Voilà. Pour des gens qui ne connaissent pas le Groenland, l'image qu'on a, c'est ça, quoi. Grande étendue désertique blanche, la neige, le froid. Qu'est-ce qu'il y a de beau?
C'est un milieu rude, et à l'époque, en fait, je pense que ce qui m'a fait rester, c'est que ça m'a remis à ma place. J'étais un peu perdu, j'étais un peu prétentieux, un ego un peu surdimensionné. Je pense que c'est un environnement qui m'a remis à ma place, et je crois que c'est ce qui m'a fait rester au début.
C'est-à-dire, expliquez-nous à comprendre ça. En quoi ça vous a remis à votre place?
C'est-à-dire que la nature, elle vous remet à votre place là-bas. Vous avez beau arriver avec les bras écartés comme ça, je connais tout, j'ai tout fait, je suis trop fort. La nature, elle vous remet vite fait à votre place.
Et la nature là-bas, c'est quoi? C'est le froid?
C'est le froid, la météo qui change très très vite. Au début, j'avais toujours ma mentalité de l'époque quand je faisais de la montagne, etc. Parce que c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, la première fois quand je suis arrivé au Groenland. C'est ce qui aussi a plu à Niels, c'est-à-dire que j'attendais pas qu'on me dise tiens, fais ci, fais ça. Je prenais mon bateau, parce que je m'étais acheté un petit bateau avec un petit moteur, et puis je partais tout seul faire mes trucs, et puis je partais tout seul dans la montagne avec mon fusil pour essayer d'apprendre tout ça. Et en fait, on se rend compte vite fait, parce qu'on fait des erreurs, et il y a des fois on se dit tiens, la nature vous remet à votre place, quoi. Il y a pas d'autre, je vois pas comment expliquer ça autrement. C'est, on est remis à sa place.
Alors Julien Caquino, racontez-nous comment se passe la chasse en hiver. Parce que j'imagine qu'il y a vraiment les deux saisons qui sont très très différentes, l'été et l'hiver. Quand vous chassez en hiver, comment vous organisez votre sortie de chasse?
Alors en fait, en hiver, il y a plusieurs saisons. En fait, c'est l'hiver, c'est là où il y a le plus de saisons, en fait, pour la chasse. C'est-à-dire que avant que la banquise se forme, il y a la partie octobre, on va dire mi-septembre, octobre, novembre, en fait, où c'est une partie, c'est un moment où qui est très très instable au niveau météo. Là, tous ceux qui ont été à Ilulissat en été ont vu une mer complètement calme, on dirait un miroir de Mercure tellement la mer est calme. L'hiver, c'est plus la même chose, ce qui fait que c'est assez. On doit chasser donc les phoques sur. Depuis le bateau, mais c'est une période assez compliquée parce que donc la météo change rapidement, les conditions de mer deviennent rapidement critiques. Et moi, en fait, au début, je partais un peu tout seul, alors qu'on part jamais, on l'apprend après, mais on part jamais seul. Moi, je partais tout seul avec mon bateau et je me suis retrouvé dans des situations un peu critiques parce que j'étais le rookie français qui connaissait pas son environnement, en fait. C'est comme ça qu'on apprend l'environnement, parce que moi, j'avais pas de Niels à ce moment-là était lui reparti Dans sa saison, à préparer son hiver, puisqu'il préparait, il allait à la pêche pour aller à la chasse pour avoir assez de nourriture pour ses chiens, pour préparer sa saison d'hiver quand la banquise est arrivée. Donc là, c'est un moment où je me suis retrouvé vraiment tout seul. Et c'est là où on apprend le plus, puisqu'en fait, on est seul face aux éléments et on apprend de nos erreurs.
Comment ça se passe? Vous partez, donc là, on est dans la première partie de l'hiver, vous êtes avec votre bateau, vous chassez les phoques depuis le bateau.
Ouais.
Comment vous faites? Vous les tirez, vous les dépecez sur le bateau? Comment ça s'organise?
Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les, en fait, on les tire, on envoie un de loin, on tire. On sait qu'on va pas le toucher, mais on le tire. Ça, le phoque, il est surpris, il redescend. En fait, il se met sous l'eau sans prendre sa respiration. Et là, on sait qu'il va revenir. On se dirige vers lui, vers l'endroit où il a coulé. On sait que plus ou moins avec un angle, il va pas se diriger vers l'hélice du bateau, puisque c'est là où ça fait du bruit. On a à peu près un angle où on va se diriger. On sait qu'il va sortir sur à peu près un angle de 180 degrés.
Et donc, il faut vite le repérer pour l'attraper à ce moment-là.
Suivant la taille du phoque, en fait, il va remonter en plus ou moins de temps. Mais si c'est les petits phoques à cette période, on appelle ça natsec. Là, c'est les petits phoques annelés. Ils ne restent pas longtemps sous l'eau. Ce qui fait qu'on sait à peu près où ils vont ressortir.
On parle des phoques. On commence par les phoques parce que vous chassez aussi le renne, le morse, le narval. On va parler un peu de tout ça. Mais quelle place tient le phoque dans la culture des Inuits?
C'est vraiment le plat principal, en fait. Parce que c'est l'animal qui est autorisé à être chassé par tout le monde.
Il y a des quotas?
Non, pas pour le phoque.
Pas pour le phoque.
Ouais. Il y a deux types de licences de chasse au Groenland. Il y a un permis qui est ce qu'on appelle le permis commercial pour les gens qui gagnent leur vie avec la chasse. Et il y a le permis qui est pour tout le monde. En fait, les gens qui ont un métier.
Vous avez le permis professionnel.
Ouais. Et en fait, tous les gens chassent le phoque. Tout le monde. C'est vraiment l'animal qui est chassé.
Et on utilise tout? Encore aujourd'hui, on utilise la peau, la nourriture.
Alors, dans le sud et l'est du pays, j'en ai aucune idée de ce qu'ils font. Mais nous, au nord, comme on a les chiens, en fait, on utilise tout. Puisqu'il y a à manger pour les hommes et puis il y a à manger pour les chiens. Mmh. Et la peau, on la revend. Il y a une entreprise au Groenland, dans le sud du Groenland, qui fabrique des vêtements de luxe en peau pour le Danemark. Mais sinon, on la garde, nous, pour les chiens, en fait. Quand arrive le début de l'hiver, en fait, les chiens aiment manger la peau de phoque. Ça leur donne un peu de gras.
Alors, Julien Coquineau, vous êtes chasseur professionnel. On vient de parler de la chasse des phoques. On sait en France combien c'est mal vu. Tout le monde se souvient de l'intervention de Brigitte Bardot pour dénoncer la chasse aux phoques. Comment vous, vos amis inuits, vous accueillez ces critiques de la part des Occidentaux qui trouvent scandaleux la chasse aux phoques?
On s'en fiche. Et ce qui les énerve un peu, enfin, ce qui énerve tout le monde d'ailleurs, c'est que souvent les lois, par exemple sur l'exploitation du phoque, etc., c'est-à-dire que sont votées par des gens qui ne sont pas concernés en fait par le problème. Donc souvent ça les énerve un peu que la communauté européenne vote des lois en fait qui nous impactent financièrement, alors que ils sont pas du tout concernés, ils connaissent même pas le problème. En fait, ils votent des lois sur des choses qui se sont passées, comme avec Brigitte Bardot. En fait, ce qui est dénoncé, c'est ce qui s'était passé au Canada à l'époque avec le fameux film. En plus, on a appris par la suite que c'est le réalisateur qui avait demandé aux gens d'abattre les phoques de cette manière,
les bébés phoques de cette manière.
Mais nous, au Groenland, on les chasse pas, les bébés phoques, ça se mange pas. Donc, au Groenland, un truc qui se mange pas, ça se chasse pas, puisque les gens, ils veulent manger. Donc, il n'y a aucune valeur financière de chasser un bébé phoque. Si peut-être un jour, il y a un gamin qui va...
Vous voulez nous dire qu'il y a un décalage complet entre la mentalité que l'on a dans nos villes occidentales et vous, au Groenland, où vous vivez, vous nourrissez de la chasse?
Je pense que les gens ont perdu la notion de d'où vient la nourriture, en fait. La nourriture, elle ne vient pas d'une usine ou dans un supermarché. La nourriture, elle vient, c'est la vie sur Terre, elle n'est pas, je veux dire, les gens ont cette manie d'assimiler les animaux à des peluches, en fait. Oh, ces jolis petits animaux, ils sont gentils, ou les chiens, etc. Mais la vie animale, elle n'est pas du tout, c'est pas joyeux, hein. C'est très très cruel. Les animaux entre eux sont très cruels. La vie sur Terre est très très cruelle, en fait.
Et l'humain fait partie de ce cycle-là.
Oui, mais on a tendance à humaniser, en fait, les animaux. Et donc, c'est sûr qu'il y a des, Il y a un moment, faut pas abuser non plus, c'est-à-dire d'aller exterminer une espèce pour gagner toujours plus d'argent, c'est complètement ridicule, bien sûr, mais il faut se souvenir de où vient la nourriture, et je pense que d'aller chasser le phoque pour se nourrir, c'est quand même moins impactant pour l'environnement que d'aller manger des steaks et des hamburgers chez McDonald's où les vaches et les, je sais pas, ont été abattues par milliers dans des usines. Enfin, je veux dire, c'est...
Mais est-ce que les phoques sont en voie de disparition
Non,
au
non, non, au
Groenland?
contraire, ils ont fait des études et c'est complètement l'inverse.
Il y a de plus en plus de
Ouais.
phoques.
Mais on est 56 000 habitants en tout. Donc
Et il y a, on
Hubert,
sait.
il avait fait les recherches sur combien de licences de chasse avaient été attribuées sur les années. Mais enfin, c'est pas 56 000 habitants qui vont éliminer des millions.
Et vous chassez le renne également,
Ouais.
les rennes sauvages.
Ouais.
Là, c'est pareil. Il y en a largement, il y en a
Alors
suffisamment,
oui,
il y a des quotas
pendant
sur les
il y a
rennes.
une dizaine d'années, en fait, les populations ont commencé à être décimées. Il y a eu des mesures qui ont été prises, et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. En fait, il y a trop de rennes, donc les quotas ont même été augmentés. Mais il y a un permis spécial, c'est-à-dire que vous avez, à part le phoque, quand vous avez un permis de chasse, qu'il soit professionnel ou sur temps libre, en fait, le phoque, il y a aucun quota pour le phoque. Et après, pour chaque espèce, vous êtes obligé de demander un permis spécial et on vous attribue un quota.
Et même chose, il y a un quota pour les ours blancs.
Alors les ours blancs, c'est très particulier. C'est-à-dire que c'est par région. Déjà, c'est que les chasseurs professionnels qui ont le droit de chasser l'ours blanc. Il faut un permis de chasse spécial. Et c'est par région, en fait. Les gens qui chassent le plus l'ours, c'est les gens de Savitsivik, qui est un petit village au niveau du Cap York, qui est le dernier village au Groenland où les gens vivent encore, comme dans les années 1930, mais avec la 4G. Il n'y a pas de pêcherie sur place, donc les gens vivent que de la chasse à 100%. Et
Là, ils ont le droit de chasser l'ours blanc, même
oui,
si on dit qu'il est en voie de
mais en fait,
disparition.
c'est qu'ils ont des quotas plus importants. Par exemple, à Kahanak, qui est plus au nord, un chasseur va pouvoir chasser un ours par année, alors qu'à Savitsivik, un chasseur, il va pouvoir en chasser 16 par année. Mais c'est de la nourriture pour les... Ce que les gens comprennent, enfin ne savent pas surtout, c'est qu'un ours, en fait, c'est de la nourriture pour chien. C'est-à-dire qu'on ne les tue pas pour gagner de l'argent.
C'est pour les peaux quand même, non?
Mais alors les
J'imagine que
peaux, on
c'est
les
les peaux qu'on
garde.
vend
Les
le
peaux, ça
plus
se vend très
cher.
très mal. Il y a très peu de gens qui vont vous acheter les peaux. Mais c'est surtout pour vous faire vos pantalons en peau d'ours. Parce que sur la banquise, vous pouvez avoir un pantalon technique à 1000 euros. Il fera jamais le poids devant un pantalon en peau d'ours quand vous êtes sur un traîneau.
Il y a le savoir-faire pour utiliser les peaux aujourd'hui pour en faire des vêtements. C'est-à-dire, est-ce que traditionnellement, c'était les femmes qui savaient travailler les
Ouais.
peaux pour en faire des vêtements. Aujourd'hui, les jeunes femmes inuites savent encore faire ça?
Oui, bah dans les régions du nord, oui, beaucoup plus. Dans les régions du sud, non.
Votre femme, Charlotte, par exemple, elle
Mon
sait
épouse,
faire.
ouais, sait faire des.
Elle sait faire les
Ouais,
vêtements
elle sait faire les vêtements.
en peau. Et
Mais
elle en
elle l'a
fait.
appris, bien après, parce que elle vient. Sa mère, en fait, ne voulait pas. Sa mère voulait qu'elle ne voulait pas qu'elle devienne femme de chasseur ou femme de pêcheur.
Et c'est ce qu'elle a fait en épousant
Et
un
c'est ce qu'elle
Français en
voilà,
plus.
c'est ce qu'elle a fait en épousant un Français. Donc en fait, et pareil, sa grand-mère d'ailleurs avait dit à sa mère travaille, elle est aide-soignante à l'hôpital d'Ilulissat, et sa grand-mère avait dit, moi je veux pas que tu deviennes comme moi, enfermée à la maison, à nettoyer des pots toute la journée. Je veux que tu aies un avenir, en fait. Donc elle avait appris un métier. Mon épouse avait un CAP dans l'hôtellerie, en fait. Donc elle a appris beaucoup plus tard à justement nettoyer les peaux et confectionner des
Et il y
vêtements
a
avec.
un retour à ces traditions-là, parce que là, on va aborder cette question qui est importante aujourd'hui. Est-ce que les Inuits sont dans une forme de disparition de leur mode de vie traditionnel par la modernité, ou est-ce qu'il y a un renouveau chez les jeunes Inuits
Non, il y
pour
a...
relancer, retrouver leur identité culturelle
Ça n'a
et
jamais
leur
été vraiment
tradition?
perdu. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes cousent. De savoir coudre en tant qu'homme aujourd'hui, on est même fier. Moi, je suis capable de me faire un pantalon ou de réparer mon pantalon, par exemple. Donc,
Mais vous êtes une exception parce que vous
non,
venez de
non,
l'extérieur et les Inuits
non.
ont cet
Tout le
intérêt, ce
monde, tous les
savoir-faire.
chasseurs savent se débrouiller, savent coudre une paire de gants, plus ou moins bien, mais tous les chasseurs savent coudre. De toute façon, quand vous êtes dans la nature, faut apprendre à repriser ses vêtements, à réparer ses affaires. Donc tous les chasseurs savent coudre, ils savent coudre une tente. Moi, je me sers d'une machine à coudre, beaucoup mieux de ma femme. Et c'est un savoir, oui, qui revient de plus en plus. Ils ont même créé Il y a un CAP qui existe maintenant qui pour apprendre en fait à faire les vêtements traditionnels, les vêtements qu'on connaît au Groenland avec toutes les perles, etc. Donc maintenant, il y a un diplôme en fait officiel où les femmes et les hommes peuvent aller suivre une formation qui dure 3 ans en fait. Et là, ils apprennent à justement à nettoyer les peaux, teindre les peaux, enlever les poils, enfin toutes les techniques en fait pour pouvoir faire ses vêtements à la méthode de l'Ouest, du Sud, du Nord, du Grand Nord, de l'Est. C'est assez intéressant.
Alors, Julien Quéquino, vous m'avez dit à plusieurs reprises, je l'ai entendu, qu'il y avait la 4G. Il y a la 4G partout.
Ouais.
Les Inuits aujourd'hui ont leur téléphone portable, leur tablette, ils voient par Internet tout ce qui se passe dans le monde. Mmh. Est-ce qu'ils ont le désir de continuer un mode de vie traditionnel de chasseurs, pêcheurs, ou est-ce qu'ils sont attirés par tout ce qu'ils voient sur Internet, et notamment le désir de partir au Danemark ou ailleurs?
Il n'y a aucune différence avec ici, en fait. Chez nous, la chasse, la pêche, c'est un métier. Donc les gens, c'est un métier qui est possible, c'est donc un métier, mais les Groenlandais, ou les Inuits, si vous voulez, mais au Groenland, en fait, les gens vivent comme en Occident depuis les années 60, en fait. Il ne faut pas oublier que c'est un territoire danois. Quand vous voyez des photos de famille de mon épouse, par exemple, les gamins, ils ont les mêmes soupules moches qu'on avait dans les années 70 avec nos cagoules. Eux, c'est pareil. Sauf qu'en plus, ils ont des anoraks, mais les jeunes des années 70 ont les mêmes cheveux longs, les mêmes lunettes, les mêmes pantalons pas de def dans les villes comme Ilulissat, etc. Alors bien sûr, quand ils vont travailler, ils ont leurs chaussures en peau, leurs pantalons en peau, etc. Parce que c'est comme ça qu'on a chaud. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, depuis les années 60-70, les gens ils sont habillés comme nous, on s'habille en Occident, quoi. Donc... j'ai souvent
les
cette
images,
question.
Les images de Nanook, dans les igloos, tout ça, c'est terminé. Ils
ça fait,
dans
ça
des
fait
maisons,
longtemps.
Ça fait longtemps.
Et puis à chaque fois qu'il y a un documentaire, de toute façon, les gens, ils vont dans le village le plus retiré où les gens vivent. C'est sûr, quand on va travailler sur le traîneau, on est habillé en pantalon en peau, mais quand vous rentrez dans la maison, c'est pas une maison occidentale, mais il y a quand même la télé, écran plat.
Mais dans leur tête, c'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'ils ont envie de garder ce mode de vie dans ce pays qui est dur, qui est exigeant, le Groenland, ou est-ce qu'ils ont envie de partir et d'aller voir ailleurs?
Là, je peux pas faire une généralité. Ça dépend des jeunes, en fait. Il y en a qui veulent rester, il y en a qui ont décidé d'être chasseurs, malgré qu'ils soient allés à Nuuk faire des études et qu'ils aient un métier en main, en fait. Ils ont décidé de revenir chez eux et d'être chasseurs-pêcheurs. Et puis, il y a les gens qui veulent partir ailleurs. Il y a des Groenlandais en France, il y a des Groenlandais aux États-Unis.
Il n'y a pas une tendance majoritaire?
Non, il y a beaucoup de Groenlandais au Danemark parce que il y a les enfants qui font les études supérieures. En fait, les jeunes qui font des études supérieures vont au Danemark pour finir leurs études. Et puis, beaucoup d'entre eux rencontrent leur conjoint, homme ou femme, au Danemark, et puis ils s'installent souvent au Danemark, des fois ils reviennent, des fois ils repartent. C'est difficile de parler ça parce que ça serait faire une généralité, et puis en fait c'est un peu comme ici, en fait.
Mais ce qui m'a quand même impressionné en lisant ce livre, Le Dernier Chasseur, c'est que Hubert Prolongeau donne quelques chiffres, et notamment autour de la question du suicide. 83 suicides pour 100 000 habitants, 8 fois plus que le reste du monde. Comment on explique ça, ce suicide et ce mal-être?
Ça, c'est un sujet qui m'énerve un peu, qui m'agace un peu, parce que forcément, la proportion est plus grosse, parce qu'on est que 56 000, mais il n'y a pas un gars qui est en train de se suicider toutes les semaines. Allez vivre au Groenland et vous verrez que les gens sont heureux. Alors, c'est sûr que quand vous êtes dans un village de 4 000 habitants, vous êtes touriste et puis c'est l'été et le mec bourré, les cas sociaux du coin,
c'est ce qu'on dit beaucoup,
on les voit.
L'image que l'on a quand même des Inuits à partir des reportages qu'on
a pu voir,
c'est des problèmes sociaux et notamment l'alcoolisme, et c'est pas le Groenland.
C'est pas ce que vous connaissez sur place. Alors le Groenland, c'est pas la chasse, c'est pas les petits villages comme dans lequel j'ai pu habiter, etc. C'est le Groenland, c'est un pays entreprenant, c'est des jeunes qui entreprennent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gamins qui se prennent en main. Alors ça a souvent rapport avec la chasse et la pêche, mais maintenant que le tourisme se développe, il y a beaucoup de jeunes qui montent leur boîte, qui achètent des bateaux, qui investissent beaucoup d'argent dans des bateaux.
Alors ça vient d'où cette image que l'on a de ces Inuits qui sombrent dans l'alcoolisme, dans la dépression, avec un fort taux de suicide?
Ça vient de vos confrères, parce que souvent, je travaille souvent avec des équipes télé ou des journalistes qui viennent, et c'est souvent les formats sont déjà, genre on vient pour le réchauffement climatique, un bel réchauffement climatique, mais en fait ça impacte pas tant que ça les gens, c'est même une bonne chose quasiment. Alors ça peut paraître idiot de dire ça, mais c'est quand même mieux. Je me souviens, je m'étais occupé d'une journaliste, j'avais fait la remarque quand son reportage était sorti, j'étais pas très content parce que j'avais dit tu montres que les mauvaises facettes en fait. C'est comme si on allait en France puis on allait dans une banlieue sinistrée de Paris puis on disait la France c'est ça, c'est des gens qui vivent dans une cité complètement délabrée avec des gens qui n'ont aucun avenir puis qui sont drogués, etc. On va dire c'est quand même très réducteur, puis c'est même réducteur des cités parce que la vie en cité, c'est pas ça, hein. C'est pas la drogue, l'alcool ou les gens qui cassent tout, je veux dire.
Et vous dites donc que le Groenland, c'est pas ça. Et aujourd'hui, il y a du dynamisme, il y a des projets pour l'avenir.
Le Groenland, c'est entreprenant. On parle pas que c'est un pays qui est quand même où la femme a une place très très importante. Les gens, les jeunes qui ont les plus éduqués, je veux dire, niveau scolaire, sont quand même les femmes. Parce que les jeunes hommes, c'est facile d'aller à la pêche et à la chasse, et c'est un moyen rapide d'aller gagner de l'argent. Donc il y a beaucoup plus de femmes qui poursuivent leurs études que d'hommes. C'est un pays très ouvert. L'Église est très ouverte sur l'homosexualité. Par exemple, le mariage des homosexuels au Groenland, ça fait des années que ça existe.
Ce sont des églises plutôt protestantes qui sont...
Plutôt protestantes, mais je veux dire, ça pose absolument aucun problème. Et on ne parle pas de tout ça. On ne parle pas de cette ouverture d'esprit... On ne parle pas de cette ouverture d'esprit sur des thèmes aussi simples que l'homosexualité, sur les différences raciales, sur même les différences de religion. Un endroit comme Ailulissat, on a 4800 habitants, il y a 13 églises, deux confessions différentes.
Et qui s'entendent bien.
Et qui s'entendent bien, c'est même des témoins de Jéhovah, Ailulissat.
Julien Caquino, vous avez parlé du réchauffement climatique et vous avez dit... Il n'y a pas de problème pour les Inuits, ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez nous dire en quelques mots comment est vécue cette perception du réchauffement climatique au Groenland?
Ça dépend à qui vous allez... C'est sûr que si vous allez demander aux chasseurs qui passent 8 mois de l'année sur la banquise dans le grand nord du pays, la diminution de la banquise est un problème. Mais par contre, des endroits comme Ilulissat...
Donc là, c'est plutôt le centre, on va dire, centre nord...
C'est une bonne chose, dans le sens où, par exemple, au niveau import-export, moi, quand je suis arrivé, il y avait un bateau qui arrivait au mois de novembre ou décembre, et puis après, le prochain, c'était peut-être avril, peut-être mai, peut-être mars, on ne sait pas. Alors que maintenant, il y a des bateaux qui peuvent passer tout l'hiver. C'est vraiment très rare. Vraiment, il y a une période en janvier, février, là où il y a peut-être les bateaux peuvent plus passer parce qu'il y a des grosses plaques de banquise qui bloquent la route, mais ça reste quand même, c'est plus comme avant, donc ça ouvre des portes au niveau import-export, ça ouvre au niveau de la pêche.
Mais ils s'en plaignent pas, les Inuits, ils disent pas c'est terrible, il fait moins froid qu'avant.
En fait, s'il y a de la banquise, vous sortez vos chiens, vous allez pêcher avec vos chiens. Et s'il n'y a pas de banquise, vous prenez votre bateau, vous allez pêcher en bateau.
Donc ils s'adaptent, quoi. En fait, le mot, c'est adaptation. Ouais.
C'est ce que font les populations depuis la nuit des temps, en fait, c'est s'adapter. Et c'est souvent le truc qui revient, c'est que en Occident, on a tendance à dire faut sauver la planète. Mais la planète, il n'y a pas besoin de la sauver. La planète, elle est là depuis quelques milliards d'années en français. Oui. Et dans quelques milliards d'années, elle sera encore là. Oui. Ce qu'il faut sauver, c'est nous. Donc, à nous de nous adapter pour que notre espèce puisse... pérenniser sur place.
Vous voyez avec optimisme et confiance l'avenir du Groenland?
Alors c'est compliqué quand même, parce qu'on a de plus en plus de... La météo est déjà imprévisible, elle est de plus en plus imprévisible. On a des tempêtes en fait qu'on n'avait pas avant, surtout sur cette période novembre-décembre en fait. Et c'est pas vraiment la température qui fait qu'on a des banquises tardives, c'est les tempêtes. C'est-à-dire que la banquise n'a pas le temps de s'installer. On a des grosses tempêtes qui arrivent, des vents très très violents, et la banquise à peine formée en fait est tout de suite arrachée en fait. Elle n'a pas le temps de se former à cause de ces tempêtes. Et c'est vraiment des trucs qui se voyaient pas il y a encore 10 ans ou même 5 ans. Et c'est tous les ans, c'est de pire en pire, en fait.
Et c'est super dangereux pour vous quand vous allez sur la banquise, alors, j'imagine.
Ah ben, c'est dangereux pour nous. En général, on sort pas quand il y a des grosses tempêtes. C'est dangereux pour tout le monde, pour ceux qui sortent en bateau, etc. Mais c'est surtout dangereux pour... Enfin, c'est surtout... ça a un impact surtout sur l'environnement, en fait. La banquise au nord est de plus en plus tardive à cause de ça. Il y a des régions comme Oumanak, ils ont la banquise qui arrive fin janvier. Et puis là, mi-mars, elle est déjà partie, quoi.
Un petit mot rapide sur le tourisme. Il se développe énormément dans le Groenland. C'est une bonne chose, c'est pas bon? Qu'est-ce que vous
Alors,
en pensez?
Alors, en fait, ils ont pris l'exemple de l'Islande, et l'Office national de tourisme qui s'appelle Visit Greenland, en fait, a très bien conscience des enjeux, en fait, que le tourisme, c'est une mine d'or, mais ça peut aussi être ça peut devenir un problème rapidement. Donc, ils ont pris assez rapidement conscience de ça, en fait, pour pas que ça devienne l'Islande, parce que l'Islande, c'est un peu une horreur. Et ce qui fait qu'ils essayent de développer tout ça, mais en mettant quand même un peu des barrières, surtout au niveau des bateaux de croisière, parce que ça devenait un peu n'importe quoi, surtout des endroits comme Ilulissat. Donc là, ils essayent d'aménager tout ça, en fait, et surtout, ils essayent que, économiquement, les retombées se fassent sur la population. C'est-à-dire que c'est bien gentil d'aller visiter des petits villages de 50 ou 200 habitants au milieu de nulle part, mais faut que ces gens, quand même... récupèrent quelque chose de tout ça, parce que des fois c'est un peu zoo, les gens ils débarquent de leur bateau, ils prennent des photos comme s'ils arrivaient aux eaux de Vincennes. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un retour. Donc ils essayent de mettre tout ça en place en fait en ce moment.
Pour terminer, Julien Quéquineau, vous allez être chasseur comme ça encore longtemps, ou vous voyez dans l'avenir rester au Groenland, ou vous allez vous installer à Bora Bora, comme Paul-Émile Victor?
J'en parle souvent avec mon épouse. C'est en fait là, on est au Danemark depuis le mois de juillet. Mon épouse a repris des études et donc elle est en fac de géologie. On a besoin de géologistes au Groenland.
Il y a des réserves, on n'en a pas parlé, mais il y a des réserves minières considérables.
Mais pas que pour ça, en fait, c'est parce qu'on a des problèmes avec le permafrost, en fait. Il y a beaucoup d'instabilité sur le terrain.
Qu'est-ce que vous allez faire dans l'avenir? Vous avez un désir pour vous et vos trois enfants? Vous savez pas?
C'est à la Groenlandaise, je sais pas, je prends la vie comme elle vient. Il y a un an, je savais même pas que j'allais habiter au Danemark en ce moment.
Momentanément. Donc,
on espère repartir le plus vite possible au Groenland, parce qu'il y a quand même un manque, il y a cet attachement avec la famille qui se sent au niveau de ma femme et de mes enfants. Yeah. Ils ont besoin de...
Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être passé au micro de RCF à l'occasion de ce voyage, premier voyage depuis combien d'années, vous m'avez dit?
10 ans.
10 ans, premier. Et j'aime beaucoup dans l'épilogue ce que vous avez écrit, ou ce que Hubert Prolongeau, qui vous donne la parole, a écrit. Quand je suis arrivé au Groenland, j'avais un ego surdimensionné comme beaucoup de gens dans les sports extrêmes. Mais rapidement, la nature m'a rappelé à l'ordre. L'ego n'a pas sa place au Groenland. Ici, on ne peut qu'être humble. Belle leçon. Merci beaucoup. Je conseille vraiment ce livre, Le Dernier Chasseur, comment un Français s'est réinventé au Groenland, que vous publiez aux éditions Albin Michel et que vous avez coécrit avec Hubert Prolongeau. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.